aujourd'hui à Washington.
Bonsoir Nathalie Barche pour vous présenter cette édition du 2 janvier 2019. Très bonne année à tous. 13 morts au Burkina Faso mardi dans une attaque et des représailles intercommunautaires à Yirgu. La coalition au pouvoir en RDC demande le rétablissement d'Internet coupé au lendemain des élections générales. Les forces de l'ordre malgaches ont dispersé une manifestation de partisans de Marc Ravalomanane, malheureux candidat à la présidentielle. La Somalie ordonne à l'émissaire des Nations Unies de quitter le pays. Et la Russie a accordé l'accès consulaire à l'Américain Paul Whelan, arrêté à Moscou. La Minute Écho et les sports, ce sera juste après le journal. Au Burkina Faso, au moins 13 personnes ont été tuées mardi dans une attaque d'hommes armés et des représailles intercommunautaires à Yirgu, dans le centre nord. Le chef de village a été abattu avec un de ses fils, selon des témoins. Après le départ des assaillants, des groupes de Mossi proches du chef du village ont attaqué un campement de Peul, accusé d'être complice des terroristes. 7 éleveurs ont été lynchés à mort par ces groupes, qui ont également incendié leur case, a confirmé une source sécuritaire, précisant qu'un dispositif de sécurité a été déployé sur les lieux. Le président guinéen Alpha Condé a accordé une grâce de nouvel an à 222 détenus, dont 3 personnes condamnées pour une tentative d'assassinat contre lui en 2011, selon un décret présidentiel. Le 19 juillet 2011, son domicile privé avait été attaqué de nuit par des inconnus, 8 mois après son élection. Un membre de la garde présidentielle avait été tué. Fatou Badiar Diallo, Almamei Aguibou Diallo et Mamadou Alpha Diallo, condamnés en 2013 à 15 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État dans ce dossier, font partie des détenus ayant bénéficié de cette grâce d'après le décret. En République démocratique du Congo, la coalition au pouvoir demande le rétablissement d'Internet coupé depuis lundi. D'autre part, les observateurs de l'Union africaine et de la SADC ont rendu public leur première conclusion. Le point avec Abdourahmane Dia, notre envoyé spécial à Kinshasa.
La mission de l'Union africaine, dirigée par l'ancien président de la transition malienne, Diomkounda Traoré, a déployé 80 observateurs constituant les 23 équipes ayant visité 13 provinces. Selon l'Union africaine, beaucoup de bureaux de vote parmi les 317 visités ont ouvert à l'heure et ont fonctionné normalement. Les agents électoraux ont aussi agi avec professionnalisme, mais certains bureaux de vote ont ouvert avec parfois 5 heures de retard à cause notamment de problèmes avec la machine à voter et l'arrivée tardive du matériel électoral. La mission de l'UA félicite les électeurs congolais pour leur comportement responsable le jour du vote, souhaitant que leur volonté soit respectée. La SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, elle, estime que le scrutin s'est globalement bien déroulé dans 90% des bureaux que ses observateurs ont visités. Par ailleurs, le Front commun pour le Congo, qui soutient le candidat de la majorité présidentielle, demande au gouvernement de rétablir rapidement Internet sur toute l'étendue du pays, même s'il regrette, je cite, que certaines personnes aient voulu utiliser ce moyen pour opposer les Congolais les uns les autres. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Kinshasa.
À Madagascar, les forces de l'ordre ont dispersé à coups de gaz lacrymogène une manifestation interdite de partisans de Marc Ravalomanane, candidat malheureux à la présidentielle du 19 décembre. Les manifestants protestaient contre des fraudes à Antananarivo. Le point avec John Linden.
Des milliers de personnes étaient rassemblées mercredi dans la capitale malgache, mais elles ont été rapidement dispersées à coups de gaz lacrymogène à proximité de la place du 13 mai, quadrillée par les forces de sécurité. On est venu pour faire une projection sur écran géant des anomalies constatées durant le deuxième tour, mais on nous a lancé des bombes lacrymogènes, a déclaré Anitra Razafin Mansoua, la députée du parti Team de Marc Ravalomanane. Samedi déjà, des milliers de partisans de Marc Ravalomanane étaient descendus dans la rue pour contester les résultats de la présidentielle. Cette manifestation non autorisée s'était cependant déroulée dans le calme. Selon des résultats rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante, l'ex-chef de l'État, Ange Rajoel, a remporté le second tour avec 55,66% des suffrages. Mais les partisans de l'ancien président, Marc Ravalomanane, demandent une disqualification d'Ange Rajoel pour fraude et corruption de la CENI.
La Somalie ordonne à l'émissaire des Nations Unies de quitter le pays. Nicolas Haïssom avait exprimé son inquiétude face aux actions des forces de l'ordre lors de violences en décembre qui ont fait 15 morts. Raissa Girondin nous en dit plus.
Nicolas Haïssom n'est plus bienvenu en Somalie et ne peut plus travailler dans le pays, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Pour Mogadiscio, l'émissaire des Nations Unies en Somalie doit quitter le pays. Le pouvoir accuse le diplomate sud-africain d'avoir violé les normes diplomatiques en faisant de l'ingérence délibérée dans sa souveraineté. Il y a quelques jours, Nicolas Haïssom avait pointé du doigt le comportement du pouvoir dans les élections à la mi-décembre dans le sud-ouest du pays. Il demandait des explications après l'interpellation et l'incarcération de Mukhtar Robo, candidat à la présidence et ancien membre des Chebabs somaliens. Il avait également exprimé son inquiétude face aux actions des forces de l'ordre dans la répression des manifestations qui avaient suivi. Selon les Nations Unies, 15 personnes ont été tuées et près de 300 arrestations. La mission de l'ONU en Somalie n'a pas réagi dans l'immédiat à la décision de Mogadiscio.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a invité les leaders républicains et démocrates à la Maison-Blanche pour tenter de mettre fin au shutdown, la paralysie partielle des administrations fédérales. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Donald Trump a déclaré qu'il est prêt à négocier pour la fin de la fermeture partielle des agences fédérales. Toutefois, il insiste que tout accord doit inclure un financement du mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Après 11 jours de shutdown, le président a affirmé que la sécurité des frontières et la construction du mur ne sont certainement pas les bases sur lesquelles la leader démocrate Nancy Pelosi voudrait commencer demain son mandat de présidente de la Chambre des représentants. Les démocrates disent espérer un accord avec M. Trump pour amener plus de 800 000 employés fédéraux au travail. Cependant, il refuse tout financement de la construction du mur. Le président américain veut 5 milliards de dollars pour débuter la construction de cette barrière qui pourrait coûter plus de 20 milliards au total. Les démocrates ont proposé d'approuver 1,3 milliard pour la sécurité aux frontières, mais pas de mur. Si aucune solution n'est trouvée aujourd'hui, les démocrates vont prendre dès demain le contrôle de la Chambre des représentants, alors que les républicains vont garder le Sénat. C'est dit que le shutdown pourrait se prolonger.
Le nouveau chef du Pentagone, Patrick Shanahan, qui a succédé mardi à Jim Mattis, a placé la Chine en tête de ses priorités. Au cours d'une réunion dans la matinée avec les principaux responsables du département de la défense, M. Shanahan a dit à l'équipe de concentrer ses efforts sur la mise en œuvre de la stratégie de défense nationale élaborée par son prédécesseur. Les États-Unis et le Brésil vont entretenir une relation transformée, a déclaré à Brasilia le secrétaire d'État américain Mike Pompeo au lendemain de l'investiture du président Jair Bolsonaro. Les États-Unis sont prêts à travailler à vos côtés sur le plan économique, mais aussi de la sécurité, a déclaré M. Pompeo dans un entretien avec son homologue brésilien Ernesto Araújo, à qui a pris ses fonctions ce mercredi. La Russie a accordé l'accès consulaire à l'Américain Paul Whelan, arrêté à Moscou la semaine dernière pour espionnage, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, cité par l'agence publique RIA Novosti. Les services de sécurité russes ont annoncé lundi avoir arrêté cet ancien marine alors qu'il commettait un acte d'espionnage vendredi à Moscou. Il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. L'armée syrienne a annoncé le départ de près de 400 combattants kurdes de la région de Minbej, dans le nord du pays, quelques jours après son déploiement dans le secteur à l'appel des forces kurdes menacées par une offensive turque. Par le passé, la principale milice kurde de Syrie, les unités de protection du peuple, avaient assuré avoir retiré ces hommes de Minbej. Mais le voisin turc n'a eu de cesse d'affirmer que ce retrait n'avait pas eu lieu, menaçant de lancer une offensive contre la ville. Et dans un entretien téléphonique, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé à son homologue russe Vladimir Poutine la nécessité de terminer la guerre en Syrie et d'y préserver les forces anti-djihadistes, indique l'Élysée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
Le groupe pétrolier français Total a commencé l'exploitation de son gisement de pétrole profond Egina au Nigeria, où la production devrait plafonner à 200 000 barils de pétrole par jour. Ce taux représente environ 10% de la production pétrolière actuelle du Nigeria. Le projet devrait considérablement augmenter la production de pétrole et les flux de trésorerie de Total à partir de 2019. Bank of Baroda, le groupe bancaire indien, a procédé à la liquidation de sa filiale ghanéenne à quelques jours de la date limite du respect du nouveau seuil de capital minimum de 400 millions de cédis exigé par la Banque centrale du Ghana. La banque indienne a préféré ne pas injecter des fonds supplémentaires dans Bank of Baroda Ghana, qui représente moins de 1% de ses activités. Cette filière ghanéenne est devenue la première banque du pays à procéder à une liquidation volontaire, selon le groupe Ecofin. Au Cameroun, grâce à la coordination des actions contre les détournements et la corruption, l'État sauve 375 milliards de francs CFA, selon le rapport 2017 de la Commission nationale anticorruption qui vient d'être publié. L'Agence nationale d'investigation financière a permis de sauver 250 milliards de francs CFA. La Commission nationale anticorruption a recouvré plus de 52 milliards de francs CFA. Les dossiers transmis auprès des tribunaux ont donné lieu à des condamnations pécuniaires de 52 milliards de francs CFA. L'action enclenchée par le contrôle supérieur de l'État à travers le Conseil de discipline budgétaire et financière a permis à l'État camerounais de gagner 7,5 milliards de francs CFA. Les cas de détournement de deniers publics devant les tribunaux ont permis de récupérer 8,54 milliards de francs CFA.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Joueuse africaine de l'année, les trois finalistes annoncés.
Oui, comme pour les hommes, la CAF a dévoilé l'identité des trois finalistes pour le prix de joueuse africaine de l'année 2018. Il s'agit des Nigérianes Aziza Oshoala, double tenante du titre, et Francisca Ordega qui ont remporté la CAN féminine 2018, et de la Sud-Africaine Christina Tembingatlana, meilleure joueuse et buteuse de la compétition. Par rapport à l'année passée, Ordega remplace la Camerounaise Gabrielle Aboudi, engainée dans ce trio. La lauréate sera connue le 8 janvier.
Une soixantaine de personnes blessées dans des violences lors d'un match en Algérie.
62 personnes, dont 45 policiers, ont été blessés hier lors de violences au cours des matchs de coupe entre le MC Alger et le club de Village Moussa. La rencontre a été interrompue à plusieurs reprises avant d'être définitivement arrêtée dans le temps additionnel par l'arbitre en raison des affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Les supporters de Village Moussa, dont l'équipe était menée 3-0, ont lancé des pierres entraînant l'intervention des forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Mi-novembre, une quarantaine de personnes, dont 18 policiers, ont été blessés à l'issue d'un match de première division à Alger.
Villarreal et Itura se séparent prématurément.
Le club espagnol et le chilien Manuel Itura ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Itura avait rejoint Villarreal à l'automne pour une durée d'un an à la fin de son contrat avec Malaga. Villarreal, qui doit accueillir demain le Real Madrid dans le cadre d'un match en retard, est actuellement en position de relégable à la 18e place.
Bagdad Bounedjah fait mieux que Ronaldo et Messi.
Et oui, avec 51 buts marqués en 2018, Lionel Messi termine l'année civile comme meilleur buteur des championnats européens, devant son éternel rival, le portugais Cristiano Ronaldo, 49 réalisations. Cependant, un joueur a fait mieux que les deux superstars du football mondial. D'après le quotidien britannique The Sun, l'international algérien Bagdad Bouneja a inscrit plus de buts que la Pulga en jouant moins de matchs. Le joueur d'Al Sadd Club Qatari a en effet totalisé 55 réalisations en seulement 40 matchs disputés, soit 14 rencontres de moins que le Blaugrana.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les membres de la coalition au camp du changement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe au Sud Kivu accusent la CENI d'avoir manipulé les résultats des urnes en défaveur des candidats de l'opposition. Ils disent avoir découvert du matériel électoral utilisé puis jeté, selon les opposants, à plus de 15 km des centres de vote. Le point avec notre correspondant Ernest Mouero.
Selon le porte-parole de l'UNC au Sud Kivu, maître Alfred Maïssa, des paquets de bulletins issus du vote, dit-il, en faveur du candidat président Félix Tshisekedi et d'autres candidats députés de l'opposition à Bukavu ont été retrouvés jetés à plus de 15 km des bureaux de vote. Dans une adresse à la presse, la coalition cache de l'opposition au Sud Kivu précise que dans ces lots de matériel retrouvés à Tshidau, en territoire de Walungu, figurent des procès-verbaux des opérations de vote du centre du collège Alfadjiri et de l'école primaire Nyamugo à Bukavu. Vous. Maître Maïssa soutient que les jeunes de l'UNC et de l'UDPS ont trouvé plusieurs sacs de ces matériels abandonnés, mais devant la presse, la délégation n'a présenté qu'un échantillon. Alfred Maïssa.
Tous ces procès-verbaux et même des bulletins de vote ont été emballés dans beaucoup de sacs notés CENI et on est allé jeter à Tshidau. Ça, c'est un paquet de bulletins votés. Président Tshisekedi, numéro 20. Ici, ce sont des procès-verbaux, des élections. Ça, c'est législative. Ça, c'est l'élection présidentielle. Ça aussi, c'est présidentiel. On ne peut pas admettre que la CENI prenne tous ces procès-verbaux, ils jettent dans la rue et cochent maintenant de nouveaux procès-verbaux qu'ils vont mettre maintenant dans les bureaux de compilation et tromper l'opinion.
La tension était perceptible mardi après-midi au siège provincial de la CENI au Sud Kivu, qui a été pris pratiquement d'assaut par des candidats de l'UDPS et de l'INC, exigeant la présence des responsables de la CENI Sud Kivu pour expliquer comment des bulletins et procès-verbaux des élections présidentielles et législatives effectuées au centre-ville de Bukavu ont pu se retrouver jetés à l'arrière-province. Contacté, le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Sud Kivu, Godens Maeshe, dit qu'il n'est pas normal de crier à une quelconque substitution ni changement des résultats. Pour lui, il s'agit d'un colis dont il n'est pas au courant de la perte et que tout sera fait pour tirer cela au clair. Les plis de vote de chaque site ont été chargés dans un camion sécurisé par la police. Il explique qu'avant cette opération, les résultats des dépouillements et le procès-verbaux avaient été déjà affichés dans chaque centre de vote et des copies remises aux témoins et observateur Godens Maeshe.
Mais s'il y a un colis qui était perdu, ce n'est pas un colis d'un parti politique donné. Comme ils ont dit qu'ils l'ont trouvé intact et qu'ils l'ont éventré, si réellement il était perdu, ils devraient l'amener au bureau et dire voilà, nous venons de trouver ce colis. Ils sont en train de dire qu'on a changé les résultats. On les a changés où? Parce qu'au CELCER, on n'avait même pas encore réceptionné le prix d'Alfagiri. Les PV étaient affichés encore au bureau. Je les ai vus là-bas. Les PV sont entre les mains de leurs témoins.
Le représentant de la CENI dit déplorer les menaces verbales contre sa personne et ses collaborateurs. Pour lui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, puisque, dit-il, à l'étape du dépouillement et apurement, tous les résultats seront comparés avec ce qui a été déjà publié dans les centres. Maeshe appelle à l'apaisement et promet de rencontrer les candidats de l'UNC et IDPS pour que tout soit mis au clair. De Bukavu, Ernest Mouero pour VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui vous convie du lundi au vendredi à une édition spéciale sur les élections en République démocratique du Congo. Rendez-vous tous les jours, avant et après les élections en RDC à 17h45, 18h45, 19h45 temps universel et dans le matinal pour des reportages, analyses et réactions des citoyens ordinaires et toute la classe politique. Le dimanche 30 décembre, jour de scrutin, nous vous proposons 3 éditions spéciales. De 14h30 à 15h temps universel, de 18h30 à 19h temps universel et de 20h à 21h temps universel. Nous aurons aussi 2 éditions spéciales en Lingala de 14h à 14h30 temps universel et de 16h à 16h30 temps universel. La Voix de l'Amérique toujours à votre service pour une information juste et équilibrée. Écoutez VOA Afrique.
Après le Sud Kivu, le Nord Kivu à Goma, dans l'est de la RDC, où les auditeurs de VOA Afrique ont été marqués par plusieurs événements en 2018, dont notamment l'insécurité, les manifestations et les élections. Et presque tous ont le même souhait pour cette année qui vient de commencer. Ils veulent évidemment avoir la paix et la prospérité dans leur famille. Charlie Kazereka, notre correspondant, en a rencontré certains dans les rues de Goma. On l'écoute.
Cosmas Mungazi, je suis assistant à l'Université catholique La Sapiencia et éditeur du journal Flambeau de l'Est qui paraît ici à Goma. Deux grands événements m'ont marqué pendant l'année de 2018. C'est d'abord cette action du président de la République de se choisir un dauphin. Sur le plan démocratique, et pour moi, c'est un événement qui m'a marqué. Mais aussi, un autre événement qui m'a marqué, c'est j'ai publié un livre cette année aux éditions universitaires européennes. Le livre est intitulé « Les médias du coupage de l'information à la communication ». Par rapport à mon souhait à notre pays, je souhaite que les autorités du pays donnent la liberté rédactionnelle, l'indépendance aux journalistes de publier les informations sans être inquiétés. Voilà mon vœu par rapport à l'année 2019.
En fait, je suis Monsieur Okito Temepapi. Je suis un habitant de la ville de Goma, père de 5 enfants. Je suis là, je suis débrouillard. Dès le début de cette année, j'étais content d'abord des élections. Et cela va faire du bien pour chacun de nous et de chaque Congolais. Le premier souhait, c'est d'abord d'avoir l'alternance au niveau du pays, voir un peu le développement du Congo dès 2019.
Je suis Christophe, je suis un habitant de Goma. 2018, j'étais profondément marqué par les meurtres à Beni. Et cela est dû à une mauvaise gouvernance du pays. Un vœu pour 2019, c'est avoir un Congo fier et prospère et partant d'un changement avec le vote. Il y a beaucoup d'entreprises.
Oui, bien sûr. Moi, je réponds au nom de Pepe Kishibanji Kombozi. Bon, moi, ce que je peux dire, je veux que 2019 soit une grande joie pour notre pays, soit un grand changement pour notre pays, comme tous les autres pays qui sont dans la joie.
Merci beaucoup.
Ok, merci aussi.
Bonjour, moi je m'appelle Denis Lusangi Lukuku. Un bon pays, c'est le paradis du monde, le Congo. Mais il faudrait assez que les Congolais aient conscience d'eux-mêmes. Oui, puisque le Congo ne va pas se bâtir avec des étrangers. Non, c'est nous-mêmes, ayons conscience de notre Congo, de lutter, de travailler pour le Congo, comme les Chinois, vous voyez. Je voudrais assez que l'année 2019 soit une année de prospérité.
Vraiment, en 2018, ce qui m'a fort manqué, c'était vraiment comment la population s'est comportée face à la politique dans notre pays. Parce qu'il y avait plusieurs événements, puis à un certain moment, on voulait changer la constitution, la population s'est soulevée. Il y avait des soulèvements populaires pour voir comment les pays peuvent marcher selon la volonté du peuple. Le vœu que je peux faire à l'aide, c'est juste vraiment que nous puissions vivre en paix, c'est pour la sécurité. En 2019, vraiment que la population vive en paix, mais également voir l'air social vraiment s'améliorer.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
En Mauritanie, Biram Da Abeid, député et leader du mouvement anti-esclavage IRA, est sorti de prison le 31 décembre. Il était jugé par un tribunal de Nouakchott pour tentative d'atteinte à l'intégrité d'autrui. Le journaliste qu'il avait accusé a finalement retiré sa plainte. Le député est sorti libre car il avait déjà purgé sa peine après 5 mois de détention préventive. Idriss Fall a recueilli la réaction de Bala Touré, cofondateur du mouvement IRA.
Biram Da Abeid est sorti de prison à l'issue de l'affaire qu'il l'opposait avec un journaliste au niveau de la justice. Tout simplement, le journaliste, à l'issue des débats sur la forme de la procédure, a retiré sa plainte. Et Biram avait dit que tant que son immunité parlementaire n'est pas relevée, il ne va pas se présenter devant la cour. Et c'est dans ces conditions qu'après beaucoup de consultations, le juge a prononcé son verdict. Il a, pour s'en débarrasser, il l'a condamné à 2 mois de prison ferme. Et ça prouvait qu'il avait déjà purgé près de 5 mois de prison.
Mais Biram avait été élu député pendant qu'il était en prison. Est-ce qu'il va pouvoir siéger à l'Assemblée ou bien il perd son immunité?
Le président Biram a été élu député. Ce qui a été prononcé ne lui retire pas ses droits civiques. Donc son statut de député reste intact. Biram Da Abeid va pouvoir siéger à l'Assemblée.
Et quand est-ce qu'il va prendre son siège?
Dès que les réunions de l'Assemblée, on est en ce moment en session, et dès que les réunions vont reprendre, il pourra se présenter.
Si, est-ce qu'il est toujours candidat à l'élection présidentielle de 2019?
Oui, il vient de l'annoncer encore, ou de le réitérer il y a 5 minutes de cela. Il maintient sa déclaration de candidature, il est candidat aux élections présidentielles d'avril 2019.
Sur un autre plan, les États-Unis ont suspendu la Mauritanie de l'AGOA, les accusant de pratiques esclavagistes. Vous, en tant que mouvement IRA, comment avez-vous réagi à cette décision de l'administration Trump?
Oui, nous pensons que c'est une décision très forte contre la Mauritanie et quand même qui n'arrange pas la Mauritanie et qui, d'une façon ou d'une autre, va gêner la Mauritanie. Et nous n'aurions pas voulu que la Mauritanie souffre d'une quelconque façon. Mais malheureusement, nous sommes devant un constat que les autorités américaines ont bien compris que la Mauritanie s'entête à poursuivre les pratiques esclavagistes ou que le gouvernement mauritanien ne fait rien pour décourager cette pratique. Donc c'est une sanction malheureusement qui était inévitable compte tenu de la détermination des autorités américaines à combattre l'esclavage partout où que ce soit et surtout en Mauritanie et compte tenu du fait que les autorités mauritaniennes ne veulent pas criminaliser en réalité cette pratique. Donc c'est une sanction que nous attendions bien et nous en félicitons malheureusement.
Bala Touré est cofondateur du mouvement abolitionniste IRA en Mauritanie. Au Burkina Faso, au moins 13 personnes ont été tuées mardi dans une attaque d'hommes armés et des représailles intercommunautaires à Yirgou, un village de la commune de Barsalogo dans le centre-nord du pays. Ce mercredi, la tension est toujours vive dans la zone désormais sous haute sécurité. Bagassi Koura a joint El Hadj Abdoulaye Parfadnam, le maire de Barsalogo.
Hier, aux environs de 7h30, des hommes armés sont arrivés dans le village de Mirigi et ils ont abattu le chef de ce village-là, qui est en même temps un conseiller municipal de la commune, avec 3 de ses 6 et son petit frère. Au total, 6 personnes
ont été
abattues.
Oui.
Et les assaillants sont repartis d'où ils venaient. Donc, les populations ont couru et les forces d'autodéfense, appelées Corleone, qui étaient dans la zone, sont venues ils ont cherché d'abord à suivre les traces de ces assaillants-là, sans résultat. Et au retour sur les lieux, bon, il y a eu vraiment, tout le monde était hors de lui. Et toutes les personnes qui ont été identifiées ou qui ont été présumées complices ont été, j'allais dire, exécutées.
C'est-à-dire juste des individus qu'on soupçonnait?
Oui, des individus qui ont. Ils avaient des cames de mèche avec ceux qui sont venus abattre les vieux. Et donc, cette situation s'est transposée dans un certain nombre de villages et où bon, on a les populations ont pris, en tout cas, ont poursuivi les éleveurs, c'est-à-dire qui avaient tous ceux qui avaient des relations de famille avec ceux qui ont été abattus. On dit...
Voilà, c'était donc le maire de Barsalgo, Burkina Faso, El Hadj Abdoulaye Parfadnam. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnou. À la présentation, Nathalie Barge. Très bonne soirée à tous.
VOA Afrique.